Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Au Mali, au moins 4 membres des forces armées maliennes ont été tués hier dans une attaque contre leur convoi par un groupe armé terroriste non encore identifié dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière mauritanienne, a indiqué hier l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Le terme terroriste fait communément référence aux djihadistes. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad et du pays, Mahamat Idriss Déby, a quitté N'Djamena hier pour, selon son cabinet, une visite d'amitié et de travail en France. Selon l'Élysée, le président Emmanuel Macron le recevra ce lundi dans le cadre de la préparation du G5 Sahel, dont la date n'est pas encore complètement arrêtée, mais qui devrait se tenir autour des 8-9 juillet. Au Nigeria, au moins 8 employés d'un hôpital ont été kidnappés dimanche, vraisemblablement contre rançon. Dans un établissement de santé du nord-ouest du pays, a déclaré la police locale. Des sources locales ont parlé, elles, de 15 personnes enlevées, dont deux infirmières et leur bébé. Ici à Washington, le président Joe Biden a prévenu hier que le COVID-19 n'avait pas été vaincu et il a appelé ses compatriotes à se faire vacciner, l'action la plus patriotique qui soit, a-t-il dit. Parlant à l'occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet, M. Biden a toutefois assuré que les États-Unis avaient pris le dessus sur un virus qui ne contrôle plus nos vies, alors que la circulation rapide du variant Delta et le faible taux de vaccination dans certaines régions inquiètent les experts. La Russie a enregistré, pour sa part, de nouveaux records en recensant hier son nombre de contaminations au COVID-19 le plus élevé depuis janvier, alors que les inquiétudes continuent de monter dans le monde face au variant Delta qui pourrait entraîner une nouvelle vague de la pandémie. La cyberattaque qui frappe depuis vendredi la société américaine Kaseya et ses clients est d'une telle ampleur qu'il pourrait s'avérer impossible de répondre à toutes les victimes individuellement, a averti hier le FBI. Des hackers ont attaqué Kaseya pour demander une rançon à potentiellement des centaines, voire des milliers d'entreprises à travers son logiciel de gestion informatique. Le président Joe Biden a ordonné une enquête, notamment pour déterminer si l'attaque venait ou non de Russie. Le reste de l'immeuble qui s'est effondré en Floride le 24 juin, faisant 24 morts et 121 disparus, a été démoli dans la nuit de dimanche à lundi au moyen d'une explosion contrôlée, selon des images télévisées. Les autorités ont décidé de détruire ces restes instables de l'immeuble de 12 étages de crainte qu'il ne s'écroule de façon incontrôlée lors du passage mardi de la tempête tropicale Elsa. Elsa s'abattait dimanche sur Cuba, où elle devrait sévir toute la journée de lundi, après avoir fait au moins 3 morts ailleurs dans les Caraïbes. Des secouristes japonais étaient hier à la recherche d'éventuels survivants dans la localité côtière d'Atami, théâtre d'une énorme coulée de boue grimpant sur des toits fissurés et fouillant des voitures projetées sur des bâtiments alors que de nouvelles pluies s'abattaient sur la région. Les forces de sécurité philippines recherchaient ce lundi dans une plantation de cocotiers l'enregistreur de vol de l'avion de transport militaire qui s'est écrasé la veille dans le sud-ouest de l'archipel, faisant 50 morts selon un nouveau bilan. Les talibans se sont emparés dimanche du district clé de Panjwai, dans l'ancien bastion de la province méridionale de Kandahar, après des combats nocturnes contre les forces afghanes, une nouvelle prise à l'approche du retrait total des troupes américaines. Le pape François, qui est âgé de 84 ans, a bien réagi à Rome à une intervention chirurgicale programmée qu'il a subie hier à Rome pour une inflammation du côlon, selon un communiqué du Vatican. Deux astronautes chinois ont effectué dimanche une sortie ensemble dans l'espace. La suite de nos informations, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a annoncé hier soir qu'il ne se constituerait pas prisonnier malgré une condamnation à la prison ferme par la plus haute cour du pays. Le délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités a expiré ce dimanche. Michel Joseph fait le point.
Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, a déclaré l'ancien président en riant lors d'une conférence de presse dans son fief de Nkandla dans le KwaZulu-Natal. Après sa condamnation mardi à 15 mois pour outrage par la Cour constitutionnelle, la justice lui avait donné 5 jours pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une spectaculaire arrestation par la police. La Cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui qu'il se présente en prison. Depuis vendredi, ses partisans affluent vers sa résidence et promettent de s'opposer à son arrestation. L'ex-président est accusé d'avoir pillé l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Depuis la création en 2018 d'une commission d'enquête sur la corruption d'État Zuma, il n'a témoigné qu'une seule fois, ce qui a abouti à sa condamnation pour outrage à la justice.
Va-t-on vers une cessation des hostilités dans la région éthiopienne du Tigré? Les rebelles du TDF ont affirmé dimanche accepter un cessez-le-feu de principe tout en posant des conditions alors qu'ils ont repris le contrôle d'une bonne partie du territoire. Le point avec Abdourahman Dia.
Parmi ces conditions figurent notamment le retrait des forces érythréennes et Amara qui soutiennent l'armée éthiopienne dans l'opération militaire qu'elle mène depuis 8 mois, ainsi que la restauration de ses anciennes autorités régionales. Sous réserve que nous ayons une garantie que la sécurité de notre peuple ne sera pas compromise par une deuxième vague d'invasion, nous acceptons un cessez-le-feu de principe, affirme dimanche un communiqué signé du gouvernement du Tigré. Néanmoins, avant qu'un accord de cessez-le-feu ne soit formalisé, les problèmes épineux suivants doivent être résolus, poursuit-il. Les rebelles demandent aussi que le premier ministre Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki rendent des comptes. Ils demandent aussi que l'ONU enquête sur les crimes commis durant le conflit. De nombreux pays et l'ONU ont appelé au cessez-le-feu afin notamment de permettre d'acheminer de l'aide humanitaire à la population. Addis Abeba rejette toute possibilité de dialogue avec les dirigeants du TPLF, classé organisation terroriste en mai dernier par le Parlement éthiopien.
Le président américain Joe Biden a accueilli dimanche 1 000 000 d'invités à la Maison-Blanche pour la fête nationale américaine placée sous le signe du retour à la normale, même s'il lui reste de nombreux défis à relever. Eric Manirakidza.
En ce 4 juillet qui commémore la déclaration d'indépendance de 1776, le président démocrate a invité à Washington des soignants, des soldats et d'autres travailleurs dits essentiels pour un barbecue et des feux d'artifice. Il entendait les remercier pour leur sacrifice pendant la pandémie et célébrer les progrès accomplis par les États-Unis, a fait savoir un responsable de la présidence. Grâce à la vaccination, les Américains sont capables de se réunir pour cette journée qui marque traditionnellement l'entrée des États-Unis dans la saison estivale, a ajouté ce responsable de l'administration Biden. Près de 50 millions d'Américains ont pris la route pour ce week-end prolongé, renouant avec une tradition presque mise entre parenthèses l'an dernier à cause de la pandémie. L'administration n'a pas atteint son objectif de 70% de la population adulte partiellement vaccinée, la moyenne nationale étant à 64%, ce qui est toujours considéré comme un résultat positif. Le président Biden a aussi salué le rebond économique grâce, selon lui, à son plan de relance.
Maintenant les sports avec Élisée Ompatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
football pour commencer, Anthony Bafoué, le secrétaire général adjoint de la CAF, démissionne de son poste.
Oui, longtemps annoncé cette dernière semaine, l'information a été rendue officielle avec effet immédiat. Le Ghanéen n'a pas révélé les raisons de son départ, mais selon les infos, cette démission pourrait trouver ses raisons dans la gestion qui est faite du nouveau comité exécutif de la CAF. Nommé secrétaire général adjoint de la CAF en 2017, Anthony Bafoué, sélectionné 16 fois avec les Black Stars, aura passé 4 ans au secrétariat général en charge du football et du développement.
Sur le terrain, les championnats africains tirent à leur fin. Il ne reste que 3 journées à disputer au Sénégal.
23e journée de la Ligue 1 et le leader Tenguet FC, qui n'a plus perdu un match depuis le 6 mai, s'incline 1-0 à l'US Gorée malgré l'écart au classement entre ces deux clubs. Avec 47 points, le club de Rufisk n'a plus que 6 points d'avance sur son poursuivant direct Génération Foot à 3 journées de la fin du championnat. Et puis au Maroc, on jouait la 25e journée du Botola et le Wydad s'offre le derby de Casablanca en battant 2-0 le Raja qui disputera la finale de la Coupe de la Confédération samedi prochain à Cotonou contre la JS Kabylie. Leader du classement avec 9 points d'avance sur sa victime à 5 journées de la fin, le WAC est très bien parti pour reprendre le titre de champion dont son voisin s'était emparé la saison passée.
Le football, c'est aussi l'Euro 2021. On connaît les affiches des demi-finales.
Et l'Angleterre la jouera après sa belle victoire 4-0 face à l'Ukraine pour la première fois depuis 1996. Les Anglais sont dans le dernier carré et défieront le Danemark qui est venu à bout de la République tchèque 2-1. Un match qui se jouera mercredi au lendemain de la première demi-finale entre l'Espagne et l'Italie, toujours invaincus dans le tournoi.
Comme l'Euro, la Copa América aussi a livré son dernier carré.
Tout à fait. Et on pourrait rêver d'une finale entre le Brésil et l'Argentine. Après avoir difficilement obtenu sa qualification aux dépens du Chili 1-0, le Brésil jouera le Pérou en demi-finale. L'Argentine, de son côté, a facilement disposé 3-0 de l'Équateur, mais devra jouer gros en demi contre la Colombie, qui a écarté l'Uruguay au tir au but.
Basketball à présent, on connaît l'affiche de la finale NBA cette saison.
Exactement, Idrissa. Les Suns de Phoenix ont été rejoints par les Bucks de Milwaukee. 47 ans que les Bucks attendaient ça. Sacré champion de l'Est après leur victoire 4-2 en finale de conférence face aux Hawks d'Atlanta, Milwaukee, toujours privé de Giannis Antetokounmpo, a maîtrisé le match décisif en s'imposant 118-107. Premier match des finales NBA. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi.
Merci Élisée. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le taux de chômage oscille entre 20 et 30% et le fléau frappe surtout les jeunes selon les données publiées par le ministère gabonais de l'économie l'année dernière. Il s'agit d'un véritable casse-tête pour les autorités qui ont engagé de nombreuses initiatives ces dernières années pour intéresser les sans-emploi à l'initiative privée. Libreville et Port-Gentil sont les grands centres urbains ayant déjà expérimenté les incubateurs de projets. Qu'en est-il des résultats sur le terrain? Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les jeunes porteurs de projets qui se lancent dans l'auto-emploi au Gabon partent d'un constat partagé.
Ce qui m'amène dans la photo, c'est le manque d'emploi au Gabon. C'est difficile en fait.
Christ Mitsamitsa fait donc partie des nombreux jeunes ayant réinventé le métier de photographe à Libreville. Ils arpentent les rues et occupent les espaces publics pour proposer des prises de vue aux clients contre quelques centaines de francs CFA.
D'abord, je travaille pour des gens. Après, je suis que travailler pour des gens. C'est perdant. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai gagné.
La double crise sanitaire et économique amplifie le chômage dans les grands centres urbains gabonais. Le fléau se situe autour de 20% à l'échelle nationale, selon les données publiées l'année dernière par le ministère de l'économie. Le secteur pétrolier a dû se séparer d'une main-d'œuvre dite non essentielle. Mise en chômage technique de longue durée, Van Mukasa s'est découvert une passion pour la coiffure.
Après avoir perdu l'emploi, et je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de me lancer dans un métier noble comme la coiffure esthétique? et j'ai rencontré un grand à Montboite et qui nous a initié dans ce domaine de coiffure.
De retour sur Port-Gentil, Van est éligible au programme d'appui à l'initiative privée créé par le gouvernement. Comme lui, des milliers d'autres jeunes de la cité pétrolière expérimentent des projets financés à coût de centaines de mille francs CFA. Ghislain Boulégui a fait le choix du transport de proximité.
Et le transport souvent va souvent à 5 000, 6 000, 7 000. À des moments par jour, on peut obtenir parfois même 70 000 ou 80 000. L'incubateur me soutient à 100%.
Pour Arlette Tango, les débuts sont encore difficiles. Elle est restauratrice.
La réalité parle d'elle-même. On a tout simplement deux petites marmites là, avec deux petits plateaux, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de moyens.
Pascal Wagnier-Bourouin est le coordonnateur provincial de cet incubateur de projets pour jeunes entrepreneurs.
La plupart des bénéficiaires ont reçu des kits qu'ils ont revendus le mois qui a suivi, et nous nous sommes retrouvés avec des gens qui sont repartis de zéro. Donc fort de l'expérience de la première édition, nous avons préparé la seconde édition en ajoutant des kits faciles d'application et qui demandaient une formation particulière, notamment des taxis, donc apprendre à conduire, manicure, pédicure, coiffure.
Parmi les promesses de l'exécutif gabonais depuis 2017 figure la création de 10 000 emplois par an pour résorber le chômage. Mais le défi des autorités est plombé par un contexte économique difficile. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, condamnation généralisée après le meurtre et la décapitation de soldats et de civils, dont un influent religieux, par des séparatistes présumés. Les autorités camerounaises affirment que juin a été le mois le plus sanglant de l'année, avec plus de 40 personnes tuées et 700 maisons incendiées. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
L'armée camerounaise affirme avoir été impliquée dans au moins 30 combats violents avec des séparatistes pour le seul mois de juin, en moyenne un affrontement par jour. Le capitaine Cyril Serge Atonfank Gemo, porte-parole de l'armée, a indiqué que 3 soldats ont été tués et décapités à Bamali, un village anglophone dans le nord-ouest, il y a 2 semaines. Il ajoute que de nombreux véhicules de l'armée ont été détruits, mais n'a pas donné de détails sur le nombre de soldats tués. Les médias locaux ont rapporté qu'au moins 40 soldats, combattants séparatistes et civils ont été tués dans les régions anglophones en juin. Deben Tchofo, gouverneur de la région du Nord-Ouest, dit que plusieurs civils, dont un religieux musulman, accusés de collaboration avec l'armée, ont été décapités et de nombreux civils ont été tués par des bombes artisanales de plus en plus utilisées par les combattants séparatistes.
Instructions fermes ont été données aux forces de sécurité de maintien de l'ordre afin qu'elles adaptent leur capacité de réaction aux défis de l'heure. Par conséquent, nous allons lancer des opérations spéciales pour faire face aux défis dans les localités qui sont encore troublées par l'action de quelques terroristes. Des instructions fermes nous ont été données de remobiliser les populations à travers les groupes de paix, les groupes de pacification, les comités de vigilance autour des élus locaux, des chefs traditionnels pour accompagner les forces de sécurité et de maintien de l'ordre dans l'œuvre de pacification.
Capo Daniel se présente comme un porte-parole des forces rebelles dites de défense de l'Ambazonie, le groupe rebelle séparatiste.
Cela fait près d'un an maintenant que l'armée camerounaise a introduit des véhicules blindés de transport de troupes. Donc nos forces sur le terrain se sont adaptées et elles utilisent maintenant des engins explosifs improvisés pour cibler ces véhicules blindés de transport de troupes. Nous avons utilisé ces armes à Kumbo, à Melim, à Jakiri, à Nkar, dans la région de Takijalaba, et en allant vers Ndou. Nous sommes en pleine guerre.
L'armée camerounaise affirme avoir fait explosé 30 engins piégés posés par des combattants séparatistes dans 14 villes et villages du Nord-Ouest, dont Melim, Jakiri, Nkar. Des civils ont déclaré que l'armée a incendié des maisons dans les villages et des villes où des bombes ont été posées, accusant les civils de collaborer avec les séparatistes. L'armée a assuré qu'elle reste professionnelle et accuse les séparatistes de ce qu'elle a appelé des atrocités. Des ONG, des églises et des partis politiques, dont le Social Democratic Front, SDF, de l'opposition et le Mouvement démocratique du peuple camerounais au pouvoir, ont condamné les meurtres et décapitations. Fabrice Léna, qui est secrétaire général du Parti d'Action Populaire et coordinateur de l'ONG African People's Foundation, accuse à la fois l'armée et les séparatistes.
La violence sous toutes ses formes est inacceptable. La décapitation est une violation flagrante des droits de l'homme et nous devons comprendre quoi que fassent les gens, ils seront confrontés à la loi, à la justice, parce que nous sommes sûrs que nous allons mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation qui va enquêter sur les crimes qui ont été commis. Nous condamnons toutes sortes de meurtres, violences, décapitations et incendies de maisons par les séparatistes ou les militaires. C'est inacceptable.
Les violences ont éclaté dans les régions anglophones en 2017, avec des enseignants et des avocats se disant marginalisés par la dominance francophone. Selon les Nations Unies, plus de 3000 personnes ont été tuées et une solution négociée pour sortir de ce conflit se fait toujours attendre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, à la suite des événements du 24 mai qui ont vu le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane démis de leurs fonctions par les militaires, la France a suspendu sa coopération militaire avec le Mali le 2 juin dernier. Elle a annoncé vendredi la reprise de cette coopération. Comment cette volonté unilatérale de la France de rompre puis de reprendre la coopération militaire est-elle appréciée par les Maliens? De Bamako, notre correspondant Mohamed Danioko.
Dans la soirée du vendredi, le ministre français des armées, Florence Parly, a annoncé que la France allait reprendre sa coopération militaire avec le Mali après l'avoir unilatéralement suspendue le 2 juin dernier suite au deuxième coup de force intervenu au cours de la transition. Une décision salutaire selon Mohamed Diko, président de la jeunesse de l'association de la communauté PEL, Tabital Poulaku, à la seule condition que la force française joue franc jeu.
Je pense que la reprise de cette coopération militaire est une très bonne chose, c'est salutaire. Les Rufama en ont vraiment besoin parce que vous n'êtes pas sans savoir pour aujourd'hui pouvoir faire un travail dans le centre ou au nord du pays. Il faut forcément avoir des renseignements, il faut avoir un soutien logistique. Et personne ne fait confiance aujourd'hui à la force Barkhane. Donc c'est à la force Barkhane de se montrer vraiment claire dans son travail, dans son intervention. Et comme ça, tout va se bien passer.
Si la décision de Paris de suspendre la coopération militaire avait été mal reçue par les Maliens et les pays du Sahel, la CEDEAO, elle, l'avait regretté. Pour l'analyste politique Mohamed Mamata Touré, il s'agit juste d'un effet d'annonce car sur le terrain, la coopération n'a jamais été suspendue.
La France n'est jamais allée parce que pendant tout ce temps, la France faisait ses patrouilles, la France faisait tout ce qu'elle faisait avant, même dans le coulisses des bons. Officieusement, elle travaillait avec nos forces de défense et de sécurité, donc officiellement, mais elle avait dit que tout a été suspendu.
Au-delà de cette situation, il est, selon l'analyste politique, impossible pour la France de quitter le Sahel en l'état, car la présence des forces françaises au Sahel vise surtout à protéger la France et ses intérêts.
La France n'est pas là pour voir les beaux yeux des Maliens ou bien des Sahéliens afin de se mettre là pour combattre en notre place. La France, elle est là pour sécuriser le monde, pour sécuriser l'Europe. Parce que si la France n'est pas dans ce Sahel va être une poudrière, une arrière-base de ces terroristes qui vont viser et toute l'Europe et peut-être une partie de l'Asie et puis même des Amériques.
Si à l'annonce de la suspension de la coopération militaire, aucun officiel malien n'avait réagi, il en est de même depuis la décision de Paris de la reprise de cette même coopération. Mohamed Danioko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, les populations ont manifesté dans plusieurs localités ce week-end à l'appel de l'opposition qui entendait dénoncer la question sécuritaire difficile dans le pays. Le pouvoir avait tout fait pour empêcher ces manifestations qui ont été maintenues malgré l'appel du président Kabore à surseoir à leur tenue. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, à Bobo du Lasso, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la situation sécuritaire du pays. Des manifestations qui se sont tenues tous les week-ends, samedi, pour certaines localités, dimanche pour d'autres. Ce jeune a marché à Ouagadougou.
Je soutiens à notre FDS, à notre PDP et à toute forme de résistance contre le terrorisme. Et notre deuxième objectif, c'est le soutien aux familles des victimes. Notre troisième objectif, c'est quoi? Il faut que le chef de l'État sache que le peuple n'est pas content. Il doit se mettre à l'œuvre. Il n'a qu'à agir. Le peuple en a marre. Nous sommes fatigués.
Lui aussi est un autre marcheur.
Je suis sorti pour marcher, pour montrer mon mécontentement. L'abandon des autorités envers les Burkinabés vivant dans les zones rurales.
Eddy Komboigo est le chef de file de l'opposition.
Pour l'opposition réitère sa disponibilité pour discuter de toutes les questions relatives à la sécurité de notre pays et appelle donc à l'organisation urgente des assises nationales sur la sécurité. Mais d'ores et déjà, au regard des conséquences socio-économiques dramatiques du terrorisme, l'opposition politique réclame dans l'urgence la dotation conséquente aux forces des forces de défense et de sécurité en matériel adéquat, notamment des aéronefs capables d'opérer une vision aérienne nocturne.
Pour les observateurs et autres analystes, ces manifestations constituent de bons points pour l'opposition. Pazien est juriste et analyste politique.
C'est un succès parce que l'objectif était d'interpeller les premières autorités sur la gestion de la situation sécuritaire du pays. On peut déjà dire que c'est un franc succès. Et cela aussi va jouer surtout en faveur de l'opposition dans les prochaines négociations dans le cadre du dialogue politique national. C'est sûr que le président du FASO va rappeler l'opposition à la table de la négociation et l'opposition pourra mettre donc à son actif le succès de cette marche.
Les partisans du pouvoir estiment que ces marches de l'opposition ont échoué en pointant une mobilisation faible dans certaines localités. Le président Kabore avait demandé à l'opposition, je cite, de sursoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. La semaine dernière, Roch Kabore a limogé ses ministres de la Défense et celui de la Sécurité. Le président Kabore est lui-même le ministre de la Défense. Il est secondé par le colonel-major Barthélémy Sempore. Maxime Kone, jusque-là ministre délégué à la coopération, a été promu au poste stratégique de la Sécurité. Le lendemain, l'opposition a dit prendre acte du remaniement, mais a maintenu ses manifestations de ce week-end. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace, Africa.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge.
Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put it in a frame, better know I don't blame. Everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? La, 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 la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't do come on.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.